Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 11 août 2014, en direct de Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Plusieurs pays annoncent la fermeture de leurs frontières avec les voisins affectés.
La République centrafricaine a un nouveau Premier ministre depuis hier, Mahamat Kamoun.
Il n'est pas dit que le Premier ministre devait être choisi parmi les sélections. Tout le monde a souhaité avoir un Premier ministre technocrate.
Mahamat Kamoun, Premier ministre de la RCA. L'Irak aussi a un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Haïdar al-Abadi.
Un certain consensus existe déjà, je crois, autour de cette figure parmi des acteurs clés. Et je crois que Nouri al-Maliki, même s'il entend s'accrocher au pouvoir, on n'a plus du tout les moyens aujourd'hui.
Dans le même temps, l'intervention américaine se poursuit en Irak. Les États-Unis parlent de frappes aériennes très efficaces.
Conflit israélo-palestinien, des négociations débutent aujourd'hui en Égypte.
Conflit dans l'est de l'Ukraine, l'armée resserre l'étau autour des bastions séparatistes pro-russes.
Et comme toujours en fin d'émission, bien sûr, nos pages sport et musique, mais commençons par le journal. Épidémie d'Ebola, l'OMS étudie les possibilités de l'utilisation des sérums expérimentaux pendant que plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest annoncent la fermeture de leurs frontières terrestres et aériennes avec les pays affectés. Des précisions avec Lola Akomachri.
À Genève, l'OMS tient une réunion à huis clos avec un groupe d'experts en matière d'éthique pour examiner l'opportunité de l'utilisation éventuelle de vaccins expérimentaux. Les débats portent sur les risques d'un sérum jamais testé sur les humains. Le Nigeria signale un nouveau cas à Lagos, ce qui porte à 10 le nombre de personnes infectées. La Côte d'Ivoire place sous embargo aérien les pays touchés par l'épidémie. Au Libéria, l'OFA dans le nord devient la troisième province à être placée en quarantaine. La campagne pour les élections sénatoriales partielles qui devra débuter demain a été reportée. Enfin, au Sénégal, le cas suspect qui a été signalé dans le nord-est du pays, après analyse, s'est révélé négatif.
En République centrafricaine, Mahamat Kamoun est depuis hier le nouveau Premier ministre de la transition. Les ex-Séléka assurent qu'ils ne vont pas participer à son gouvernement. Le point avec Idriss Fall.
La réaction de Mahamat Kamoun fait suite à l'opposition de l'ex-Séléka à sa nomination au poste de Premier ministre.
Il n'est pas dit que le Premier ministre devait être choisi parmi les Séléka. Il y a un choix qui a été fait en tenant compte de la vision des recommandations faites par toutes les entités nationales, notamment celles qui ont pris part aux assises de Brazzaville. S'il faut le rappeler, l'ensemble de la classe politique centrafricaine, la société civile, les confessions religieuses, les groupes armés, tout le monde a souhaité avoir un Premier ministre technocrate, compétent, intègre et expérimenté.
Par ailleurs, un calme relatif a régné ce lundi dans le 4e arrondissement de Bangui. Brigitte Andara, maire de cet arrondissement, appelle à la raison les groupes anti-Balaka rivaux qui s'affrontaient ces derniers jours dans le quartier de Boirab.
Les deux protagonistes qui m'écoutent actuellement, je leur dis que dans les quartiers, il y a les chefs. S'ils ne veulent pas traiter avec les chefs, il y a un maire. Ils n'ont qu'à venir nous voir, poser leurs problèmes. Nous allons voir comment les aider à se mettre d'accord au lieu de créer des situations qui n'honorent pas notre arrondissement.
Par ailleurs, la tension a été vive dans le 6e arrondissement. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre le meurtre d'un habitant par des présumés anti-Balaka.
Le président américain Barack Obama a autorisé 10 millions de dollars pour aider la France à lutter contre les terroristes dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest. Les fonds seront utilisés pour le transport aérien et les services de ravitaillement demandés par la France. La France a lancé l'opération Barkhane visant à vaincre les extrémistes islamistes avec une force de 3000 soldats répartis dans 5 pays de la région de l'état-major de l'opération et basée à N'Djamena au Tchad.
Le chef de la MINUAD, la mission conjointe ONU-Union africaine au Darfour, qui est accusé d'avoir minimisé des exactions des forces de Khartoum, a affirmé n'avoir rien à cacher au comité chargé de l'enquête. Mohamed Ibn Chambas a précisé que la commission est attendue la semaine prochaine pour enquêter sur les accusations portées par Aïcha El Basri. L'ancienne porte-parole de la MINUAD a accusé la mission onusienne au Darfour d'avoir dissimulé des crimes commis par les forces soudanaises. Suite à ces allégations, l'ONU a annoncé une enquête interne le mois dernier. La MINUAD est composée de plus de 18 000 soldats et policiers.
Le président de la commission électorale en RDC, Apollinaire Malumalu, a été entendu par la justice à Kinshasa. Une plainte des partis de l'opposition datée du 25 juin accusait l'abbé Malumalu de délit d'initié pour violation de la loi électorale qui exige que les agents responsables de la CENI soient engagés sur appel d'offres. Selon son avocat, son audition serait une ruse pour atténuer le choc de l'arrestation récente du député Jean-Bertrand Ewanga pour offense au chef de l'État et discrimination raciale ou tribale. Monsieur Ewanga est actuellement en résidence surveillée. On écoute l'abbé Malumalu, président de la commission électorale en RDC.
Ça n'avait rien à faire à une gravité qui amènera à l'arrestation parce qu'en fait, je suis venu plutôt éclairer le procureur général de la République sur ce dont il avait besoin. Et j'ai rencontré un inspecteur judiciaire du parquet général de la République, mais je voudrais rassurer tout le monde que c'est une procédure normale qu'il ne faut ni dramatiser, ni transformer. Je vais vaquer à mes occupations. D'ailleurs, je me prépare à aller à Matadi où je vais présider l'Assemblée plénière de la CENI pendant toute une semaine.
C'était le président de la commission électorale en RDC, Apollinaire Malumalu.
Human Rights Watch a annoncé aujourd'hui que son directeur a été interdit d'entrer en Égypte où il devait présenter un rapport sur la répression violente de manifestations pro-Morsi l'an dernier. Kenneth Roth et la directrice pour le Moyen-Orient, Sarah Leah Whiteson, ont été retenus 12 heures dimanche soir à leur arrivée à l'aéroport du Caire avant de se voir refuser un visa pour raison de sécurité. Human Rights Watch qualifie la dispersion meurtrière du 14 août 2013 de probable crime contre l'humanité. La répression de deux rassemblements de partisans de Mohamed Morsi avait fait environ 700 morts en une seule journée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire américain à la défense Chuck Hagel affirme que les trois jours de frappes aériennes des États-Unis contre les djihadistes de l'État islamique dans le nord de l'Irak ont été très efficaces, ce qui a permis aux Kurdes de reprendre deux villes. Des précisions avec Jacques Aristide.
Les combats ont été meurtriers, mais les Kurdes ont pu reconquérir pour la première fois dimanche Makmur et Gwer grâce au soutien aérien américain d'après un porte-parole des forces kurdes. Ces deux villes, au sud-ouest d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien, avaient été prises il y a quelques jours par des insurgés sunnites de l'État islamique. Les États-Unis livrent des armes aux Peshmerga, les combattants kurdes. Deux ans et demi après le retrait des troupes américaines, le président Obama a ordonné vendredi des frappes ciblées contre les djihadistes. En déplacement ce lundi en Australie, le patron du Pentagone a déclaré que Washington étudiait d'autres demandes d'aide du gouvernement irakien. Nous allons bâtir de nouveaux partenariats, d'autant que nous reconnaissons la menace non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde civilisé, a affirmé Chuck Hagel. Washington fournit également une aide humanitaire à des milliers de chrétiens déplacés, les yézidis et les autres minorités religieuses prises au piège dans le nord irakien.
Les Israéliens et les Palestiniens ont commencé aujourd'hui de nouvelles négociations au Caire, des pourparlers visant à rétablir une trêve permanente pour mettre fin au combat dans la bande de Gaza. Jean-Roger Billon.
Le Hamas parle de négociations de la dernière chance. Les négociateurs israéliens n'ont pas de discussion directe avec la délégation palestinienne parce que l'État hébreu considère le Hamas comme un groupe terroriste. L'Égypte a déjà pu mettre les deux parties d'accord sur un nouveau cessez-le-feu de 72 heures qui est rentré en vigueur ce matin à minuit. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué l'accord de cessez-le-feu et a exprimé le ferme espoir que les deux parties pourront s'entendre pour mettre fin au conflit. Depuis le 8 juillet, plus de 1900 Palestiniens ont été tués, la plupart des civils. 64 soldats israéliens et 3 civils ont été tués. Avec cette nouvelle trêve, la vie à Gaza a repris. Les boutiques et les commerces ont rouvert. Les habitants qui avaient fui leur domicile sont rentrés chez eux.
Conflit dans l'est de l'Ukraine, l'armée resserre l'étau autour de Donetsk et Lugansk, des bastions séparatistes pro-russes. Selon l'AFP, les forces gouvernementales ont coupé les routes entre ces deux villes. Des bombardements ont été entendus à Donetsk la nuit passée. Des blindés rebelles ont été aperçus traversant le centre-ville. Le président ukrainien Petro Poroshenko s'entretiendra avec son homologue américain Barack Obama en marge du sommet de l'OTAN qui est prévu les 4 et 5 septembre à Newport, au Royaume-Uni.
Toujours dans l'est de l'Ukraine, les experts néerlandais enquêtant sur le crash de l'avion malaisien espèrent publier un rapport préliminaire dans quelques semaines. Les enquêteurs n'ont cependant pas pu se rendre sur le site du crash où se battent les forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes. Rappelons que le Boeing de Malaysia Airlines a été abattu le 17 juillet alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine. 298 personnes sont mortes.
Et dans un rapport d'Amnesty International sur l'Afghanistan, l'Organisation de défense des droits de l'homme reproche aux États-Unis de ne pas avoir correctement enquêté sur la mort de civils afghans au cours d'opérations militaires américaines. Le rapport porte sur une dizaine d'incidents entre 2009 et 2013. Plus de 140 civils, y compris des femmes enceintes et des enfants, avaient été tués. Amnesty parle de possibles crimes de guerre. Pourtant, d'après l'organisation, aucun des cas n'a conduit à des poursuites judiciaires. Amnesty International met en cause ce qu'elle qualifie de système de justice militaire américain profondément vicié. Selon elle, les États-Unis échouent presque toujours à tenir leurs soldats responsables d'homicides illégaux, souligne l'organisation.
Dans l'État du Missouri, des émeutes ont éclaté hier dans la banlieue de Saint-Louis, dans le centre-est des États-Unis, après la mort d'un adolescent noir. Sarah Diaby nous en dit plus.
L'adolescent, selon certains témoins, a été tué après une altercation avec la police. Selon l'AFP, il n'était pas armé. Des affrontements ont lieu avec la police locale et plusieurs magasins ont été pillés à Ferguson, dans la banlieue de Saint-Louis, suite à la mort samedi de Mike Brown, âgé de 18 ans. Le chef de la police de Saint-Louis, John Belmar, a déclaré que le jeune homme a été tué après avoir agressé un policier et tenté de lui prendre son arme. Mais Dorian Johnson, un témoin, raconte qu'il marchait dans la rue lorsque l'agent de police s'en est pris à lui et a tiré plusieurs fois alors qu'il avait les mains en l'air. En 2012, Trayvon Martin, un autre jeune homme noir, avait été tué par un vigile qui effectuait une ronde de surveillance à Sanford, en Floride. Ces incidents relancent le débat sur les tensions raciales et les lois sur la légitime défense aux États-Unis.
Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Nathalie Barge en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. La Côte d'Ivoire s'inquiète de la propagation du virus Ebola dans les pays voisins. La panique commence à s'installer au sein de la population. Dans le même temps, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida multiplie les rencontres de sensibilisation et de prévention. Reportage de Germaine Dry, notre correspondant à Abidjan.
Après l'interdiction de la consommation de certains gibiers, de nouvelles dispositions et mesures ont été prises ce lundi par le gouvernement ivoirien pour éviter la maladie. Raymond Koffi Goudou, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida.
Qu'il y ait le moins possible d'accolades ou même pas du tout, si cela est possible. Qu'on évite bien sûr de se serrer les mains dans les salutations et autres. Nous sommes obligés de sensibiliser. Sensibiliser, demander à ce que les mesures que nous recommandons soient respectées. Nous demandons à la population de prendre cela en compte. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que la maladie n'entre pas en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce matin, aucun cas déclaré d'épidémie à virus Ebola en Côte d'Ivoire.
Les entrées sur le territoire ivoirien font l'objet d'une surveillance accentuée. Bruno Koné, porte-parole du gouvernement.
La suspension jusqu'à nouvel ordre des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre à toutes les compagnies aériennes de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola à destination de la Côte d'Ivoire. Tous les passagers à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny seront soumis à la prise de température à l'aide d'un thermomètre à infrarouge. La mise en place d'un dispositif de lavage de mains dans les aéroports, le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et de screening aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec une forte implication des autorités préfectorales, coutumières et religieuses.
Devant l'ampleur de la maladie dans la sous-région et les décisions arrêtées, la peur a envahi les quartiers d'Abidjan.
Yacouba Doumbia, aujourd'hui, rompre brutalement ses habitudes-là a créé un vent de panique. Mais je pense que le gouvernement a mis le niveau d'alerte à ce niveau-là. C'est pour justement faire prendre conscience aux populations que la menace est sérieuse.
Kra Bernard, j'avoue que ces mesures du gouvernement font véritablement peur. Elles sont même pas alarmantes. Et dans un contexte africain, c'est un peu difficile à respecter, étant donné que les accolades, les salutations sont des faits qui rentrent dans le quotidien de l'Africain. Je dirais même que c'est des actes, des réflexes même. Mais pour Ebola, on n'a pas le choix.
Traoré Bakary, il ne faut pas attendre que la maladie s'installe et commencer maintenant à courir des parts d'autres.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, l'Afrique peut-elle stopper le tueur Ebola ? Les malades africains pourront-ils accéder aux traitements expérimentaux testés sur des patients occidentaux ? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
En Centrafrique, les ex-Séléka qui contrôlent une grande partie du territoire ont annoncé qu'ils ne participeront pas au gouvernement du nouveau Premier ministre. Mahamat Kamoun a été nommé hier à ce poste par la présidente Catherine Samba Panza. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ahmed Nejad Ibrahim, porte-parole de l'état-major des Séléka basé à Bambari.
L'état-major est contre et l'état-major est tellement surpris d'écouter la nomination hier de Mahamat Kamoun comme étant le premier ministre. Catherine Samba Panza cherche toujours à écarter le mouvement politico-militaire appelé Séléka. Nous nous attendons à ce que l'accord de N'Djamena puisse être appliqué, mais nous sommes vraiment déçus malgré l'effort de l'opinion internationale d'user des moyens pour réconcilier les filles et les fils de ce pays. Nous sommes rendus compte que Samba Panza ne contribue pas pour la paix dans ce pays.
Donc vous n'allez pas travailler avec le gouvernement de Mahamat Kamoun?
Nous n'allons pas travailler avec le gouvernement de Mahamat Kamoun et aucun de ces Séléka peut entrer dans ce gouvernement. Au cas où une personne entre, il peut entrer avec son nom, mais pas au nom de la Séléka. Ce qu'on essaie de faire comprendre aux autres, le président Michel, ce n'est pas un chef de race, c'est un président d'un mouvement. Ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, Kamoun a travaillé avec le président Diotodia, le président sortant, qui peut devenir Séléka. Donc nous ne reconnaissons pas et nous n'allons pas reconnaître Kamoun comme étant le leader de la Séléka. Il ne faisait pas partie de la famille sélékiste.
C'est la première fois que la Centrafrique a un premier ministre musulman quand même.
Il y a une nette démarcation entre l'islam et la Séléka. Séléka est un mouvement politico-militaire. L'islam, c'est une religion. Le fait que Kamoun est musulman ne veut pas dire qu'il est Séléka. Il y a certains musulmans qui ne sont pas des Séléka.
Est-ce que vous ne craignez pas d'être perçu comme ceux qui bloquent la marche vers la paix?
Nous nous battons pour l'unité nationale, l'intégrité nationale et la confiance entre les deux communautés. Mais Samba Panza ne nous facilite pas la tâche.
Mais vous aviez aussi rejeté les accords de Brazzaville et même suspendu celui qui en a été le signataire.
Elle n'a pas apprécié l'accord de Brazzaville. Nous avons prouvé notre bonne volonté de signer l'accord de cessation d'hostilité pour prouver à l'opinion internationale que malgré que cet accord est violé, à maître reprise, mais nous continuons toujours de l'appliquer. Elle a mis le gouvernement sans autant nous concerter.
Le général Joseph Zoundeko avait dit qu'il ne se sentait pas concerné par les accords de Brazzaville.
Le général Zoundeko a fini cette déclaration parce qu'il attendait à ce qu'on revienne de Brazzaville pour lui apporter le compte rendu. Et après, il a compris. On lui a expliqué qu'il était d'accord et il était favorable pour l'accord de Brazzaville.
Ahmed Nejan Ibrahim, porte-parole de l'état-major des Séléka en Centrafrique. Cap sur le Togo, où le préscolaire est un luxe réservé à peu d'enfants. Une récente enquête révèle en effet que les enfants vivant à la campagne et les pauvres commencent l'école en cours préparatoire première année, le CP1. De Lomé, la correspondance de Kay Lawson. Voilà des quelques ennuis techniques, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. S'achemine-t-on vers un apaisement sur la scène politique en Irak ? Nouri al-Maliki, le Premier ministre, a été remplacé dans la journée par Haïdar al-Abadi. Ce dernier a assuré aujourd'hui, lors d'une conversation téléphonique avec le vice-président américain Joe Biden, qu'il avait l'intention de former rapidement un gouvernement ouvert. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint Peter Arling, chercheur sur le Moyen-Orient pour International Crisis Group. Écoutons-le si possible.
Si une décision a été prise, elle est endossée par deux acteurs majeurs que sont l'Iran et les États-Unis. Les discussions étaient en cours depuis plusieurs jours. Et je crois qu'il s'agit du choix du camp chiite au sein de la scène politique irakienne. Donc un certain consensus existe déjà, je crois, autour de cette figure parmi des acteurs clés. Et je crois que Nouri al-Maliki, même s'il entend s'accrocher au pouvoir, on n'a plus du tout les moyens aujourd'hui.
Quel est le profil d'Haïdar al-Abadi ?
C'est quelqu'un qui a été ministre. Il appartient au même parti que le Premier ministre actuel, le parti Dawa. Il a été ministre en 2003-2004. Ça, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît bien. Ce qui compte vraiment, c'est le type de politique qu'il va poursuivre. Je pense qu'il faut éviter de personnaliser les enjeux en Irak. Nouri al-Maliki est très représentatif d'une culture politique qui est répandue au sein de l'ensemble de la classe politique irakienne. Ce n'est pas un cas d'exception. Si son successeur se comporte de la même façon que lui, on court au désastre. Donc tout dépend vraiment du style de gouvernance et de la nature du système politique tel qu'il doit être négocié dans les semaines qui viennent.
Vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est qu'États-Unis et Iran travaillent de concert dans cette crise irakienne.
Oui, pas pour les mêmes raisons, parce que l'Iran se considère comme une sorte de grand frère, un voisin qui a un droit à exercer une influence dominante sur l'Irak et qui aussi veut se prémunir d'un voisin irakien qui a représenté une menace par le passé. Hein. L'Iran a été engagé dans une guerre effroyable avec l'Irak dans les années 80, donc il s'agit de neutraliser l'Irak, de conserver ce suffisamment faible, mais aussi suffisamment fonctionnel pour que ce soit un voisin acceptable. Du côté des États-Unis, l'idée, c'est vraiment de s'engager le moins possible, d'en faire le moins possible. Ils veulent mettre l'Irak derrière eux. Et pour ça, ça implique effectivement de collaborer avec la puissance dans le voisinage qui exerce plus d'influence à Bagdad.
C'était Peter Halling d'International Crisis Group. Il était joint à Beyrouth. Et on revient sur le Togo, où on vous l'a dit tout à l'heure, hein, le préscolaire est un luxe réservé à peu d'enfants. Une récente enquête révèle en effet que les enfants de la campagne et les pauvres commencent l'école en cours préparatoire première année, le CP, de Lomé, notre correspondante Kay Lawson.
85% des enfants togolais ne font pas le préscolaire. Les privilégiés qui représentent les 15% sont issus des milieux urbains et vivent dans des familles relativement riches. Une étude dirigée par Alain Minga, consultant de la petite enfance, vient de sortir ces statistiques et démontre l'importance de l'éducation pour les enfants issus des milieux défavorisés.
Le préscolaire a des effets très considérables sur les apprentissages en primaire. Et ces enfants qui n'ont pas de préscolaire sont des pauvres et des ruraux. Alors qu'on sait que le préscolaire a un impact particulièrement important sur les familles vulnérables, ceux qui n'ont pas dans leur ménage, dans leur maison, un environnement favorable, l'école a un impact particulièrement important sur eux.
La petite enfance est confrontée à d'énormes difficultés, résumées ici comme des besoins par Tinka Sama, point focal de la petite enfance au Togo.
Au niveau de la petite enfance, nous avons plusieurs besoins. On a besoin d'un curriculum qui est en train d'être développé. Et il faut former aussi les éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Et le besoin crucial, c'est d'avoir aujourd'hui le document de politique annexé d'un plan stratégique pour sa mise en œuvre.
La politique nationale de développement de la petite enfance est un enjeu pour le Togo et il est primordial que le pays définisse des indicateurs avec des résultats clés, estime le consultant Alain Minga.
Le vrai enjeu pour le Togo, c'est d'augmenter de façon significative la couverture du préscolaire. C'est-à-dire, c'est quoi le programme national de développement de la petite enfance au Togo pour les 10 années à venir? Et ça, c'est le vrai enjeu qu'il y a. Mais il y a une grande occasion à faire un programme national qui serait fort, qui permettrait d'économiser des sommes importantes dans le primaire et donc d'autofinancer les dépenses du préscolaire. Et donc ça, c'est un enjeu formidable. C'est comme une perche. Et si on ne la prend pas, on va tomber dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va rester avec nos 15%, et dans 5 ans, on en aura 16, et dans 10 ans, on en aura 18, et on aura toujours 82% des enfants qui n'auront pas de préscolaire.
L'enquête sur les pratiques éducatives familiales au Togo et le bilan des compétences des enfants entrant au cours préparatoire première année CP1 ont relevé que le préscolaire doit constituer une préparation pour chaque enfant devant intégrer le CP1, ce qui lui assurera un apprentissage plus aisé et une meilleure efficacité au système éducatif togolais. Kyle Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vous écoutez donc La Voix de l'Amérique. À présent, les sports avec Nicolas Pinault qui est venu nous rejoindre dans le studio. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. On va parler football puisque...
Oui, la messe est presque dite. En effet, en Ligue africaine des champions, à l'issue de la 5e journée qui a eu lieu ce week-end sur le continent, n'est-ce pas?
Et oui, dans le groupe A, les représentants congolais ont porté haut et fort les couleurs de la RDC. La première place du groupe est actuellement occupée par le tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux ont battu Al Hilal du Soudan 3-1 à domicile. Les Corbeaux rencontreront le grand rival quinois, l'AS Vita Club, elle aussi qualifiée pour les demi-finales. Le club de la capitale congolaise est allé remporter un précieux succès à Alexandrie contre le Zamalek 1-0. Le sauveur est ougandais, Younous Sentamou. Il a inscrit le but fatidique à la 55e minute. Et on va écouter Florent Ibengue, l'entraîneur des Congolais.
On est très satisfait, on est très heureux même. Quand on a commencé la compétition, on n'était pas favori du tout. On est arrivé sur la pointe des pieds et puis on a développé notre jeu petit à petit. On a un profil de jeu difficile. Rien nous a été facile, donc on a dû fuser dans nos retranchements pour passer tous les tours. Avec de la difficulté, avec du courage, mais aussi de temps en temps avec du talent. Donc on est très heureux d'arriver à ce stade de la compétition que le club n'a pas atteint depuis très longtemps. Et ce qui nous fait plaisir aussi, en plus, parce qu'on est très satisfaits. Mais le fait qu'on se retrouve là avec Mazembe aussi, c'est un réel plaisir pour tout le pays. Donc ça fait doublement plaisir.
Florent Ibengue, l'entraîneur de l'AS Vita Club. On va parler de l'autre groupe de cette Ligue des Champions, le groupe B, où l'Entente Sétif a rejoint le CS Sfaxien en demi-finale à la faveur du match nul réussi avec l'Espérance de Tunis, 2-2.
Et une autre belle coupe africaine, Nicolas, celle de la Confédération.
Et grosse désillusion pour la SEC à Abidjan. Les académiciens n'ont pu faire que match nul 0-0 sur la pelouse contre le Real de Bamako. Un résultat synonyme d'élimination.
Et le meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde prend sa retraite internationale.
Et oui, Nathalie, l'attaquant de l'équipe d'Allemagne, Miroslav Klose, a inscrit 16 buts sur différentes phases finales de Coupe du Monde. Et le joueur de la Lazio de Rome a expliqué avoir réalisé un rêve d'enfant avec le titre au Brésil. À suivre aussi demain, James Rodriguez, révélation du Mondial 2014, qui pourrait faire ses grands débuts avec le Real de Madrid. Ce sera à Cardiff contre le FC Séville pour la Super Coupe d'Europe.
Voilà, on passe à la page musicale et on écoute Bruno Mars. Easy come.
Easy come.
Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide.
Voilà, c'était donc Bruno Mars. Très brièvement, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Yemi Obadjimi à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Au micro, Nathalie Barge et Morgane Guiriec. On se retrouve demain.